Ça va, ça? Bon, moi, je suis content de venir, quoi. Pour préciser certaines choses, d'abord me présenter, peut-être, c'est nécessaire. Hein. Et donc, Jean-Henri, j'étais un psychiatre. Hein. Et on peut dire que j'ai été initié dans la neurologie et la psychiatrie il y a bien longtemps. C'était dans les années 45-46, en particulier par quelqu'un que j'ai estimé de façon extraordinaire, c'est Juan de Ajuria-Guerra, qui était réfugié basque espagnol, qui avait fait sa thèse à Paris en 1937 et qui était à Sainte-Anne, dans le service de neuropsychiatrie, et qui avait, on peut dire, rénové complètement, disons, la clinique et puis les recherches. Et c'est Ajuria-Guerra qui m'a fait rencontrer par une quantité de circonstances que je n'ai pas le temps de dire, hein, qui m'a fait rencontrer des gens qui ont compté pour moi jusqu'à leur mort, on peut dire. François Tosquelles, qui lui-même était réfugié catalan et qui était depuis l'hiver 1940 à l'hôpital de Saint-Alban en Lozère et qui avec son équipe l'a mis en acte de quantité de problèmes aussi bien théoriques que pratiques et rénové complètement le... et c'est à partir de lui qu'on a fondé la psychothérapie institutionnelle d'une part et puis en même temps j'ai rencontré dans la même période de 1947 Jacques Lacan. Jacques Lacan, que j'ai fréquenté, on peut dire, en analyse et puis en travail, jusqu'à sa mort en 81. Parce qu'il y a ses morts en 94. Donc on peut dire qu'il y a là la base même, Ajuria, Tosquelles et Lacan, plus énormément d'autres personnes, bien sûr, mais la base psychiatrique, psychanalytique, neurologique, c'est là que ça se passe, quoi. Et puis alors, c'est Saint-Alban, c'est un hôpital psychiatrique. Mais à partir de 49, septembre 49, septembre, oui, c'est ça, septembre 49, pour des circonstances, je n'ai pas le temps de raconter, je me suis retrouvé près de Blois, dans le Loir-et-Cher, dans une clinique privée. À ce moment-là, il y avait eu un scandale, on peut dire, pendant l'occupation allemande. L'hôpital de Blois, qui était énorme, il y avait plus de 1000 lits, 1100 lits, avait été complètement vidé, liquidé, par des trafics avec les occupants. Si bien que quand je suis arrivé, il n'y a plus que 12 lits dans une petite clinique pour 250 000 habitants. Donc il n'y avait plus du tout de psychiatrie. Ça compte beaucoup, ça, sur le plan officiel. Parce que je me retrouvais dans une clinique avec 12 lits, de Blois, et alors un travail 24 heures sur 24 de consultation. En même temps, j'ai appris le dispensaire de Blois chaque semaine, un dispensaire d'hygiène mentale qu'on disait, à partir de 50, pendant 41 ans. Et puis après, des différents IMP, au moins 2-3 IMP dans le Loir-et-Cher, l'Institut médico-pédagogique. Et puis, j'ai incité à créer d'autres cliniques, en particulier la Genève, les Fréchines, Belle-Allée, enfin des cliniques, des gens qui avaient travaillé avec moi ou dans mon entourage. Donc, l'hôpital psychiatrique proprement dit, il a fallu attendre très longtemps, et c'est seulement en 1964 qu'il a été créé à Blois, un petit hôpital psychiatrique. Donc dans le département, il y avait une carence, on peut dire, de psychiatrie publique, quoi. Et puis, il y a eu un prêt Romorantin, son repart en 69, etc. Alors voilà, ça c'est la toile de fond. Hein. La toile de fond qui fait que ça n'empêche que, d'une façon constante, j'ai toujours travaillé de loin ou de près avec... Lacan, Tosquelles, Ajuria-Guerra, etc. Puis tout un groupe d'amis psychiatres, c'est resté célèbre avec. J'étais en relation avec Georges Daumaison, qui a joué un rôle énorme à Fleury-les-Aubrais, puis après à Sainte-Anne. Et c'est Daumaison qui a créé avec Germaine Véguillan la formation des infirmiers par les stages des CMEA pour former les infirmiers. Il y a des stages qui duraient 10 jours et qui ont commencé à se fonctionner à partir de 1950-51. En gros. Et puis alors, il y a une quantité d'autres relations, bien sûr, qu'on ne peut pas énumérer, mais qui situent. On peut dire que je suis pas du tout isolé, quoi. Je suis pris dans tout un mouvement. Et depuis, moi, de congrès au congrès, etc., je fais un séminaire à Sainte-Anne depuis 1981, chaque mois, un séminaire sur la psychiatrie, la psychothérapie institutionnelle, enfin sur tous ces problèmes-là, depuis 1981. Et puis je faisais également un séminaire à la clinique de la Borde, donc qui existe depuis 1953, la clinique de la Borde. Et bien depuis 1971 jusqu'à maintenant, c'est-à-dire chaque semaine, etc. Donc un brassage permanent de population, et parmi la population, d'une part, des infirmiers, des éducateurs, des psychologues, qui sont venus travailler à la Borde, et parmi ceux-ci, il y en a qui sont devenus psychiatres même, du fait même qu'ils ont pris le minimum d'expérience à la Borde. Ça, c'est présenté très très rapidement.
Mais c'est très complet, hein, je crois. Vous pouvez,
et puis en même temps, des relations internationales. Avec le Japon, le Brésil, l'Allemagne, l'Italie surtout, l'Espagne naturellement, et le Mexique, etc. etc. En gros.
Donc, merci pour cette présentation. Et donc, cette fois-ci, sur ce que vous pourriez souhaiter nous dire sur la santé mentale et la psychiatrie et ces problèmes les plus importants d'aujourd'hui.
D'une part, on peut dire qu'il y a des termes qui sont discutables. Le terme, par exemple, d'hygiène mentale. L'hygiène mentale, c'est un terme qui a été créé, je crois, en 1938, c'était après 36. L'hygiène mentale, avec des choses positives dedans, c'est-à-dire que ça soit pris en charge sur le plan de la santé générale. Mais le mot hygiène mentale est un peu lourd. Hein. Hygiène mentale, il n'y a qu'à faire sonner ça. Hein. J'ai une toute petite parenthèse. J'ai reçu un jour au dispensaire de Blois une lettre d'une paysanne qui venait en consultation. Il m'a dit « Docteur Horry, président du génie mental ». Alors moi j'étais ravi. Non mais ça je ferme la parenthèse. Bon, il y a d'une part ça. De même le terme de maladie mentale, c'est un terme discutable. Il faudrait reprendre de très près. Et puis alors, on peut dire... un terme, à mon avis, très très malheureux, qui est mal compris et mal reçu par beaucoup de malades, c'est le terme handicapé, handicapé psychique. C'est une loi qui est parue, je crois, en janvier 75, le traitement des handicapés psychiques. Alors, souvent, il y a des malades qui disent « moi je ne suis pas un handicapé », etc. Sans plus, quoi. Et c'est des termes un peu lourds, officiels, qui risquent justement de trop rétrécir le champ de la psychiatrie, qui est en fin de compte un champ extrêmement large. On pourrait presque dire que la psychiatrie, peut-être, ça serait même pas une spécialité, comme disait Tosquelles, ça serait pas une spécialité de la médecine, ça serait plutôt l'inverse. Par exemple, à un certain moment, en Espagne, il y avait un contrat, c'était avant 40, c'était un contrat avec l'université de Barcelone, et les étudiants en médecine venaient passer un an de stage à l'hôpital psychiatrique pour faire un travail d'infirmier, justement pour les sensibiliser à quelque chose, à une clientèle qu'ils verraient pendant toute leur vie de médecin, quoi. Et ça n'existe plus. Et puis, il y a eu une chose très, très importante de redéfinir, disons, de redéfinition de la maladie psychiatrique. Qu'est-ce que c'est que la maladie psychiatrique là? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un diagnostic? Qu'est-ce que c'est que l'évolution? Qu'est-ce que c'est que la thérapeutique? En pensant bien qu'il n'y a pas, on ne peut pas isoler, disons, du contexte ces choses-là, ça dépend comment que ça se passe. Et alors, on a pris position dans notre mouvement, position contre cette proposition qui fait, à mon avis, des ravages, bien que ça soit bien intentionné, c'est sur le DSM, c'est-à-dire le diagnostic DSM 3, 4, etc. C'était bien intentionné. C'était à la suite du deuxième congrès international de psychiatrie à Zurich en 1957. Il s'était aperçu que les diagnostics aux États-Unis, en Europe, en Allemagne, en URSS, etc., le même nom, c'était, ça ne correspondait pas, il n'y a pas de correspondance. Donc ils ont voulu unifier, disons, les critères diagnostiques, hein, et ils ont créé ce qu'on appelle le DSM. Mais alors, il se trouve que le DSM a dégénéré. Le DSM-4, par exemple, c'est une liste de symptômes, et on peut mettre une croix dans... C'est comme un petit peu d'une façon péjorative, quand on s'ennuie un peu chez le coiffeur ou chez le dentiste, on remplit des trucs comme ça, c'est un jeu de société, il y a des petits carrés, on dit, ah, voilà, ceci, il est comme ça, cela. Ça aboutit à des erreurs de diagnostic effrayantes, qui peuvent avoir des conséquences très graves. Parce que moi, je pense toujours que la première démarche n'est pas une démarche purement objective, la première démarche de rencontre avec quelqu'un, disons, du domaine qui relève de la psychiatrie, ça doit être une démarche diagnostique. C'est, à mon avis, la chose la plus importante qui soit. Or, cette démarche-là est faussée depuis qu'elle DSM-3 et le DSM-4. Je vais donner un tout petit exemple. Parmi d'autres, c'est, il y a à peu près un an, je reçois une lettre de plusieurs psychiatres de la région parisienne me disant, est-ce que vous pouvez recevoir le jeune homme à tel 32 ans, schizophrène paranoïde, à tendance paranoïaque. C'est lourd, hein, lourd. Et alors je dis, bon, c'est pas mal de voir. Il s'est présenté. Simplement, quand on est bien habitué à une pratique, on fait un diagnostic en une seconde. Bon. Il s'est présenté à la porte du bureau, hein, un beau jeune homme, et je lui dis, en le regardant, mais vous n'êtes pas schizophrène. Il a dessus un sourire épanoui en me disant, ah, bonne nouvelle. Et là-dessus, je lui dis, bon, essayez, restez 2-3 heures ici pour voir comment que ça se passe dans la clinique. Et puis on en reparlera tout à l'heure pour savoir si vous venez ou pas, quoi. Il est revenu 3 heures après. Et je dis, je vous prie, vous en verrez des vrais, là. Il est revenu 3 heures après, dans un grand sourire, en disant, j'en ai vu des vrais. Mais je ne sais pas si je viendrai quand même ici. On en reparlera. Une erreur de diagnostic qui avait entraîné chez ce jeune homme des manœuvres de contention, d'enfermement en cellule, hein, et qui débarque avec ce diagnostic épouvantable, c'est une erreur. J'en ai plein comme ça. Hein. Alors, il faut rectifier quelque chose. Alors, ce qu'on appelle, disons, la fonction d'accueil. La fonction d'accueil, c'est d'accueillir l'autre, mais dans sa spécificité, dans sa singularité, plutôt, tel qu'il est, comme ça. En passant outre, disons, l'appréhension, la frayeur, etc., de rétablir un climat de confiance le plus tôt possible, qu'on appelle une fonction d'accueil, mais qui doit ne pas être confondue avec l'admission. Ça, j'en ai parlé, on en parlait depuis toujours. Hein. J'avais des exemples de toutes sortes. Avec une amie que je connaissais très très bien, c'était le docteur Hélène Chagnot, qui a travaillé de façon extraordinaire. Elle avait des exemples, disons, de confusion, d'admission, c'est d'inscrire le nom, et voilà, puis c'est tout. Ça regarde, disons, l'inscription administrative, quoi. Mais l'accueil, des fois, l'accueil, il faut des journées. Il faut accueillir pour accueillir quelqu'un qui est en état confusionnel ou d'un état dissociatif. Et il faut une fonction d'accueil, mais concrète. C'est une des raisons pour laquelle on a formé, dès le début de toutes ces expériences-là, un groupe de personnes qui serait un groupe d'accueil d'une dizaine ou d'une quinzaine de personnes. Et pour que ça fonctionne mieux, des personnes différentes les unes des autres. Mais ça, avec les infirmiers, mais avec les malades surtout, hein, qui s'étaient formés justement à accueillir comme ça. Et ça fonctionne depuis toujours. Hein. Et c'est une. Pour dédramatiser un peu les choses, pour voir les conditions des voies de stress, j'en arrive quelquefois, surtout dans des services publics un peu surchargés, eh bien, l'admission est faite, mais après, c'est un travail, disons, de sensibilisation. Des fois, la fonction d'accueil, on la recommence. Des fois, il faut un mois pour faire un accueil comme ça. D'ailleurs, les médecins qui ont travaillé à la Borde, les deux médecins, leur thèse de médecine, c'était l'accueil en psychiatrie. C'était dans les années 50, ça. Voilà. Or, je ne sais pas si ça suffit, mais c'est assez compliqué à décrire toutes ces choses-là. Hein. Parce que si on ne fait pas attention à ça, on crée de la pathologie. Ça se crée justement par manque d'accueil. Et en fin de compte, de laisser la personne dans un état d'isolement, de renfermement, surtout s'il y a des réactions plus ou moins agressives qui sont laissées comme ça, et qui aboutissent souvent à des manœuvres un peu coercitives, aussi bien de contention que d'isolement, de chambre d'isolement. Alors ça fausse, on peut dire, plus que le DSM-3, ça fausse le diagnostic et ça engage, disons, un avenir sombre au point de vue, disons, du pronostic. Et ça, j'ai des exemples en quantité là-dessus. Hein. Encore avant-hier, qui avec un diagnostic d'ailleurs erroné, pas plus schizophrène, qui était plutôt schizoaffective, mais qui, pour un état pseudo-dépressif, a été justement dans un hôpital parisien, mis en pyjama, sans aucune occupation, pendant au moins une semaine. Un médecin comme ça, une demi-heure, et puis en attendant. Et alors, comme elle était de plus en plus anxieuse, elle était enfermée. Donc, avec suffisamment de médicaments pour un peu de somnolence, quand je l'ai vue mardi dernier, là, c'est tout récent, elle était un peu somnolente, mais on a parlé un petit peu, c'était pas du tout une schizophrène, hein. C'était quelque chose de plus compliqué que ça. Hein. Mais elle était extrêmement sensible. Je vais pas faire un petit tour, etc. Et après, je lui ai demandé ce qui lui plairait. Et elle m'a dit, ce qui me plaît, moi, c'est faire du cheval au bois de Boulogne. Et j'ai dit, il y a des chevaux ici. Elle est allée voir les chevaux. Elle dit, si vous venez, on sait jamais, on pourra, etc., etc. Enfin, des occasions un peu fantaisistes comme ça, mais qui permettent justement de d'approcher l'autre autrement que par réponse plus moi, avec des diagnostics un peu rapides. Pour, autrement dit, même dans des cas comme ça, les plus apparemment, les plus détériorés, il y a toujours choses, n'en déplaise à beaucoup de psychanalystes. Pas contre les psychanalystes, bien au contraire, mais il y en a quand même une bonne proportion, il faudrait bien faire un peu de psychiatrie concrète. Pour dire, il y a du transfert. Il y a du transfert au sens de Freud, au sens de Lacan, etc. Il y a du transfert. Mais du transfert, et qui est lui-même pris dans la pathologie. Est-ce que une amie psychiatre, psychanalyste allemande, Gisela Pankow, qui faisait de l'analyse des psychoses, disait les schizophrènes qui arrivent comme ça, c'est comme des grands brûlés. Hein. C'est arraché, c'est des plaies à vif. Il faut faire, comme chez les brûlés, des greffes. Et ce qu'on appelait des greffes de transfert. Même au même moment, je disais, ce qui est dissocié, c'est le transfert. Et justement, c'est avec ça qu'on peut travailler. Mais si on dit qu'il n'y a pas de transfert, c'est foutu. Alors, il y a toute une dimension là qui demande énormément. J'ai passé des dizaines d'années là-dessus pour l'expliquer. Mais c'est à partir de là que la fonction d'accueil tient compte de la possibilité même non dite, non encore émergé, il y a quand même du transfert. Et ce que mon ami François Tosquelles appelait multiréférentiel, un petit bout comme ça, polyphonique, un peu comme dans un orchestre, en fin de compte. C'est-à-dire, on tient compte pour recevoir quelqu'un, on tient compte des gens, d'abord de la relation immédiate, mais on tient compte de là où il se trouve. Les personnes qui peuvent être les plus aptes, par exemple, on voit bien que, je pense par exemple, c'est un milieu rural, d'accord, quelques années, arrive à, jusqu'à un certain âge, mélancolique, suicidaire, gravement, hein, puis on n'avait pas beaucoup de place, on trouve une chambre, et dedans il y avait un autre monsieur. Il se trouve par hasard qu'ils étaient le même village et qu'ils avaient été même à l'école ensemble. Bien ça joue énormément. On a exploité ça, mais à condition qu'on le sache. Si on l'avait isolé complètement, on n'aurait jamais eu cet avantage de pouvoir profiter, disons, de cette relation ancienne et plus qu'amicale. Et ça fait partie, disons, du traitement. Le traitement tient compte justement de toute cette ambiance, disons, transférentielle, pour prendre un grand mot, hein, mais en même temps des petits détails de l'existence. Hein. De savoir ce qu'ils veulent faire. Alors, des histoires comme ça, on en a des quantités à force. Hein. Et ça fait partie de, on pourrait presque dire, de l'arrière-pays. Quoi. Tandis que si on reste enfermé dans son bureau, qu'on fait l'université, etc., à mon avis, on passe à côté de quelque chose, et puis, c'est pas, on peut dire que c'est pas très sérieux. Voilà. Bien sûr, pour des choses comme ça, l'important, c'est d'avoir une structure de base collective. Et alors, c'est la grande découverte, on peut dire, avec Bonafé, Lucien Bonafé, qui a joué un grand rôle aussi, avec Tosquelles, Bonafé, Jean-Tis, tout ça c'est amis, etc. La nécessité d'organiser l'hôpital, pour que ce soit autre chose qu'un simple lieu de pas d'enfermement, mais de classement, et puis d'enfermement. C'est-à-dire qu'il y ait une vie sociale collective dans laquelle participe tout le monde. Et ça, c'était possible en créant à l'intérieur de l'hôpital ce qu'on a appelé un club thérapeutique, avec toutes les variations. Ça peut avoir, et ce club thérapeutique qui a été reconnue comme une association de 1901, etc. Et ce qu'on a appelé après la Fédération des associations de croix marine, c'était ça. Et ce club thérapeutique, avec une véritable micro-société dans laquelle il y a beaucoup de choses. Ils sont proposés aux malades, même qui sont dans sont plus ou moins enfermés. Des choses comme le théâtre, la bibliothèque, les open doors, enfin les sorties, le mime, la gymnastique, énormément, des dizaines d'activités, quand on est un peu imaginatif, qu'on peut mettre en acte et qui peuvent justement modifier quelque chose de cette vie misérable qui est due justement à la maladie mentale qui rétrécit. Mais ça peut très bien se reprendre par des relations comme ça, indirectes. Bon, ça c'est... On pourrait en parler très longtemps. Hein. Mais la difficulté, c'est que ce coefficient de liberté, et qu'il ne soit pas n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi, c'est une liberté organisée. Ça nécessite, de la part du personnel, et de la part même de tout l'établissement, une modification, disons, de la fonction même d'accueil, de traitement, etc. Et c'est pour ça que le club peut jouer un rôle important dans le contrat que passe le club, regrouper ergothérapie, ludothérapie, enfin toutes ces choses-là, plus du côté du personnel en symétrie presque avec le club des malades, on appelle des associations culturelles pour former le personnel qui est là par des conférences, par des quantités de choses, des sorties, des congrès, etc. Or, faut bien dire que c'est pour que ça puisse fonctionner, c'est pour ça qu'on a créé, alors après, les CMA avaient fonctionné quand même avec deux maisons, etc. C'était la première fois que les infirmiers, c'était en 50, sortaient des hôpitaux. Que disait deux maisons, on dit avant de faire sortir les malades, vous allez peut-être faire sortir les infirmiers. Là. Et puis, mais depuis alors, on a créé en 1986, dans le cadre, en rapport avec le séminaire que je fais à Sainte-Anne, on a créé un regroupement de ce qu'on a appelé des associations culturelles dans différents hôpitaux de France. Et les associations, on a fait une fédération des associations culturelles qui, d'une part, organise des stages. On organise chaque année des stages au mois de mai pendant une semaine et puis des rencontres diverses. Et c'est bien qu'il y a un brassage de population pour que des infirmiers, des psychologues, des médecins puissent voir autre chose que leur propre travail permanent. Alors, c'est pour ça, par exemple, au mois d'octobre, il y avait des journées à Marseille. Et 8 jours après, il y avait des journées à Landerneau, à l'autre bout de la Bretagne. Et puis là, on est allé à Strasbourg il y a quelques mois. Et tout est programmé en même temps que le séminaire de Sainte-Anne, dont je parlais, fait partie justement d'une des manifestations. Et c'est l'occasion d'un mouvement avec une revue. 52 numéros, etc., une revue institution, hein. Et puis en rapport avec des livres, des éditions, enfin un tas de choses comme ça, ça fonctionne. Hein. Mais ça fonctionne, c'est-à-dire ce qui est à l'arrière-plan de ce qui est le minimum nécessaire pour modifier justement quelque chose du rapport avec l'autre. C'est qu'on ne peut pas pour résumer ces choses-là. Mais vous comprenez qu'il y a des mots comme ça que je disais tout à l'heure. Même comme un psychotique ou un schizophrène avec qui on a de très bonnes relations, hein. Se voir étiqueté handicapé mental, ça c'est loin de lui faire plaisir. Hein. Et qui fait un effort, au contraire, permanent, avec l'aide des autres, pour ne pas être handicapé, hein. C'était une bonne intention, hein, les handicapés mentaux. Hein. Par contre, il y avait quelque chose qui a disparu, qui semble très très important, c'était, je crois, qui est disparu en 1970-71, il y avait au ministère, Mademoiselle Mamelet. On l'appelait comme ça entre nous, psychiatre, la papesse de la psychiatrie. Elle avait une connaissance totale de tout ce qui se passait en psychiatrie, à tel point que quand les psychiatres publics étaient embarrassés, ils allaient voir Mademoiselle Mamelet, aussi bien Daumaison que Bonafé, que Guillon, ils allaient voir sans opinion différente. Et pour avoir justement des renseignements sur la politique générale amenée en France. Et ce poste-là est disparu, il me semble, depuis qu'elle a pris sa retraite, qu'elle est disparue elle-même, mais depuis très longtemps. De même, il y a des choses gravissimes. C'est que il y avait eu justement une discussion avec Henriet. Maître qui organisait les congrès de psychiatrie en France et sur le plan international, Henriet, qui était à Bonneval. Hein. Et Henriet avait insisté pour la distinction entre neurologie et psychiatrie. À mon avis, c'était une grave erreur. Et qui a été très discutée après par Algeria Guerra, Ecamp, etc., en 1949. De même, il y a eu séparation en 70-71 entre psychiatrie adulte et psychiatrie d'enfant. C'est trop massif. Bon. Mais la chose encore plus grave que ça, c'est qu'en 1987, il y a eu la suppression des écoles d'infirmiers psychiatriques. C'est gravissime. Ça valait ce que ça valait, il y avait des conflits. Et n'empêche que c'était une formation qui durait 3 ans. Et les infirmiers étaient en contact avec l'expérience. Alors, la suppression des infirmiers psychiatriques, enfin des écoles d'infirmiers psychiatriques en 1987, pour moi, c'était une très grande gravité pour l'avenir. Si bien qu'on n'en trouve plus. On nous oblige même actuellement d'embaucher pour faire le artificiellement un certain nombre d'infirmiers d'État, mais qui n'ont aucune expérience de la psychiatrie. C'est simplement les titres. Et de même, enfin, tout ce problème des stages, des formations, etc., ça a été relativement écrasé. Alors, on continue quand même à le faire, mais envers et contre tout. Mais il ne s'agit pas de se transformer en chevalier de la bravoure, je ne sais quoi, hein. Mais simplement par honnêteté. Et ça nécessite, et par exemple, ce qu'on pourrait dire, de lutter contre ce qu'on peut appeler la maladie de l'établissement. C'est-à-dire, on peut dire l'aliénation sociale, pour prendre des grands termes. C'est-à-dire une forme exagérée de bureaucratisation interne. Et les quantités de groupes qu'on ne peut pas faire si on ne modifie pas les rapports hiérarchiques et poser la hiérarchie comme étant un problème de base qu'il faut traiter. Les rapports entre aussi bien les personnels de service, qui jouent un grand rôle dans les hôpitaux, que les cuisiniers, que le médecin-chef, que l'économe, etc. Qui, en fin de compte, laissent, disons, à l'état de village, comme ça, ça dégénère très vite. Et alors, on s'aperçoit qu'il y a des systèmes d'empêchement, disons, de penser. Hein. Des exemples comme ça, dans des quantités. Hein. Mais pour que quelqu'un puisse être efficace avec d'autres, il faut qu'il soit un petit peu un certain coefficient de liberté de pouvoir parler à l'autre. Hein. Mais si ça lui est défendu, il faut voir comment. Hein. Et alors la prise en charge des malades, aussi bien sur le plan de l'ergothérapie ou simplement de la vie quotidienne, ou bien travailler à la bibliothèque, ou préparer un spectacle, ça nécessite une qualité de relation qui ne peut pas être, en fin de compte, télécommandée par le système de hiérarchie administrative tel qu'elle existe souvent. Et j'en ai eu dernièrement encore le témoignage par exemple, un type, je ne sais plus c'est tout, un exemple, il y a quelques années, un exemple d'accueil immédiat. Alors, je reçois une jeune femme qui était déjà un faux diagnostic. Elle était étiquetée massif. Schizophrène paranoïde à tendance paranoïaque, c'était celle-là aussi. En réalité, c'était pas du tout une schizophrène, c'était même pas une psychose hystérique, c'était quelqu'un de fragile comme ça, mais qui était complètement coincé, et elle avait été hospitalisée, elle avait été enfermée, attachée. Elle avait subi les présentations de malades qui sont très discutables, de présenter en public quelqu'un comme ça de fragile, hein, jusqu'avec des réflexions qui se passent. Hein. Et je dis, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Ici même. Et alors, de façon un peu stéréotypée, elle me dit, je voudrais, elle avait quelques mois avant, à Paris, à la sortie de l'hôpital, elle s'était jetée du premier étage. Donc elle avait une fracture ouverte du fémur droit, qui avait été réparée par le chirurgien. Mais elle pouvait quand même, elle arrivait avec des béquilles. Et elle me dit, je voudrais faire du cheval et être clown. C'était sûr. Faire du cheval avec les béquilles, c'est un peu tôt, mais je vous parlerai, il y a des chevaux ici, je vais vous appeler, la monitrice des chevaux, l'a appelé pour voir. Hein. Quant au clown, c'est évident, il y a dans deux jours, revient une personne qui fait le théâtre, qui a une formation de 7 ans de clown, et elle peut vous prendre en charge. Ça faisait partie de l'accueil, ça. Et j'étais ravi, elle n'avait plus peur du tout, là. Hein. Mais pour pouvoir dire ça, il faut que ça puisse exister. Bon, c'est un exemple parmi des centaines d'autres. Hein. Mais c'est l'utilisation des possibilités comme ça, à la condition de les créer. Voilà. Maintenant, pour le reste, c'est...
On va peut-être arrêter là sur... Première.
Juste un mot,
parce qu'après, il faut qu'on puisse poser quelques questions.
Le secteur, il y a une destruction du secteur. Moi, j'ai assisté avec Toscaïès, avec Domaison, avec Bonafé, surtout, à la mise en forme, je me rappelle, de secteur.